Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération Anarchiste. Et c'est Jeudi Noir qui commence après un excellent morceau d'un groupe canadien ultra connu et célèbre mondialement, No Means No. Donc vous avez entendu My Politics. Voilà, donc au studio on a Roulez qui vient nous aider exceptionnellement à la place de José qui est en train de, comment dire, de se feutrer dans la poudreuse. Et puis en face
et
de
c'est
moi,
pas une image, hein.
Et c'est pas une image. Et donc il y a Jean-Mathias en face de moi qui va nous présenter un livre préfacé par Michel Onfray. Ouais, voilà.
Bon, mais c'est tout dit.
Donc un livre d'Antoine Bueno qui s'intitule No Vote, manifeste pour l'abstention aux éditions Autrement. Et sinon, on a avec nous, et un peu malgré nous, un fact-checker anonyme ultra dangereux qui est prêt à dégainer Internet dès qu'on dira une bêtise. C'est dire si il va dégainer Internet. Je pense qu'il va épuiser son forfait. Voilà, donc c'est Jean-Mathias qui a lu le livre pour changer. Et j'estime que, enfin, je suppose qu'il va nous en parler et que c'est un livre intéressant, j'espère.
Ouais, absolument. Je vais vous parler de ce livre qui s'appelle No Vote, donc Antoine Bueno, préface de Michel Onfray, tu l'as dit, donc ça fait déjà quand même un gros morceau. Et alors j'ajoute pour montrer à quel point on vit des temps compliqués, que Antoine Bueno a été aussi une des plumes de François Bayrou. Voilà. Et donc il s'agit d'un manifeste pour l'abstention.
Voilà, c'est pas si normal, François Bayrou ne se présente pas.
Il est labellisé soutien d'Emmanuel Macron. Là, maintenant, c'est un parti à soi tout seul. Ça.
Ah, zut.
Alors, donc, j'ai pensé que ça pouvait intéresser tout le monde, en fait, même tous les auditeurs. Mais ça peut intéresser les auditeurs qui s'apprêtent à voter Macron pour éviter que le Front National n'arrive au pouvoir.
On n'a pas d'auditeurs qui s'apprêtent à voter Macron.
Ça peut intéresser tous les auditeurs qui s'apprêtent à voter Hamon.
On n'a pas d'auditeurs qui s'apprêtent à voter Hamon.
Pour peser sur le prochain congrès du Parti Socialiste après les présidentielles. Ça peut intéresser tous les auditeurs qui s'apprêtent à voter Mélenchon. Pour peser sur le prochain congrès du Parti Socialiste.
On n'a pas d'auditeurs qui s'apprêtent à voter
ça
Mélenchon.
Ça peut intéresser aussi tous les électeurs du Front National.
On n'a pas d'auditeurs du Front National.
Qui s'apprêtent à voter Front National parce qu'ils pensent qu'elle va vraiment fermer les frontières et puis vraiment sortir de l'euro. Et puis ça peut intéresser tous les auditeurs qui s'apprêtent à voter François Fillon, ça je sais pas trop pourquoi.
On n'a pas d'auditeurs qui s'apprêtent à voter François Fillon.
Donc bref, c'est un truc, et ça intéresse évidemment tous les auditeurs qui s'apprêtent à qui se demandent quoi. Et donc puisque...
On n'a pas d'auditeurs qui se demandent.
Puisque c'est donc un manifeste pour l'abstention. Alors, c'est un livre qui vient de sortir, donc il vous a pas échappé, voilà, il y a un contexte un peu éditorial autour des élections présidentielles. Au passage, j'ai jeté un petit coup d'œil quand même là en librairie récemment, c'est pas le seul. Donc il y a beaucoup de livres programmatiques pour Macron pour expliquer pourquoi il va faire barrage au Front National, Hamon pourquoi il va peser sur le prochain congrès du Parti Socialiste, etc. Et donc il y a quelques livres quand même là qui sont sortis, c'est pas le seul, sur l'abstention, parce qu'effectivement c'est une situation qui est compliquée et du coup ça doit correspondre aussi à une demande et à un marché. Alors Antoine Bueno quand même, ancienne plume de Bayrou, donc vous voyez où on en est, c'est-à-dire que même les centristes effectivement sont perplexes hein, face à ces échéances, ça en dit donc long. Alors, je dis ça de manière un peu badine, C'est un livre qui est pas agréable à lire, qui est pas toujours convaincant, mais qui est pas inintéressant. Voilà. Alors c'est pas, on n'est pas dans la veine des textes anarchistes. Vous l'aurez compris pour condamner le cirque électoral et puis les élections bourgeoises. Là c'est pas tellement le thème, mais il rappelle quand même un certain nombre de choses qui sont intéressantes. C'est écrit. Son ambition, il le dit à un moment donné, c'est d'essayer de d'écrire une espèce de doctrine de l'abstention pour permettre d'avoir un argumentaire un peu commun au premier parti de France depuis déjà quand même pas mal de temps, et donc pour rappeler non seulement toutes les vertus politiques de l'abstention à ses yeux. Et surtout toutes la vanité des arguments qu'on oppose à l'abstention habituellement. C'est surtout sur cet aspect-là que je trouve que c'est intéressant, parce qu'il prend un peu dans l'ordre tous les différents arguments qui sont opposés habituellement à ceux qui statent et puis qui du coup n'y vont pas ou font autre chose. Alors il y a c'est rédigé comme ça, donc voilà, vous avez un premier première question, par exemple, qui est posée. Bon, ça mérite toujours d'être rappelé. Voilà, on s'est battu pour le droit de vote. Alors donc, est-ce qu'il n'est pas honteux de s'abstenir? C'est une question qui revient assez récemment. Et la réponse qu'il fait, c'est pas du tout, avec un argument qui est effectivement assez simple, sachant que, rappelons que le vote est un droit. Voilà. Et que c'est pas parce qu'on a un droit effectivement qu'on est tenu de l'exercer, de la même manière que le fait de posséder le droit de grève ne nous oblige pas à nous mettre en grève dès qu'il y a un préavis qui est déposé quelque part, et que donc voilà, le droit de voter est un droit qui, dont on est libre de l'exercer ou pas, et donc il y a absolument strictement aucune effectivement honte ou aucune contradiction à ne pas exercer un droit qu'on possède. Bon, ça mérite d'être rappelé. J'aime bien l'argument sur le droit de grève. Effectivement, on a le droit de grève, mais c'est pas pour ça qu'on a le devoir de faire toutes les grèves qui sont posées. Même chose sur la liberté de circulation, évidemment, hein. Est-ce que si on a le droit de circuler librement, est-ce que ça nous oblige plusieurs fois par jour à arpenter le territoire? C'est pas,
non, ça non. C'est le travail qui nous oblige à le faire.
Oui. Donc, du coup, donc voilà, alors c'est par exemple voilà ce type d'argument comme ça.
Et il y a comme des gens qui sont morts pour qu'on ait le droit de vote.
Oui, c'est ce qui
reprend celui-là ou pas?
Oui, bien sûr, c'est la même chose, hein, pour le droit de grève aussi, il y en a beaucoup qui sont morts pour ça, et pour la liberté de circulation aussi. Voilà.
À force de circuler.
Oui. Alors, ce qui rappelle aussi, quand même, de manière. C'est pareil, bon, c'est des choses qu'on a tendance parfois à oublier quand on se fait taper dessus sur l'abstention. C'est que l'abstention est une modalité d'exercice, finalement, du droit de vote qui est parfaitement acceptée dans les institutions, et même dans les institutions républicaines, puisque dans toutes les assemblées représentatives, toutes les assemblées d'élus, l'abstention est effectivement un des choix proposés de manière tout à fait reconnu aux députés, par exemple, aux sénateurs, et d'ailleurs on a un certain nombre de candidats à la présidentielle qui rappellent souvent que sur tel ou tel vote, précisément, ils se sont abstenus sans que ça paraisse une espèce de démission politique ou citoyenne de leur part. Et donc ce qui est valable pour les élus est évidemment, d'après lui, valable également pour les électeurs à plus forte raison. Le fait d'institutionnaliser l'abstention est donc quelque chose qui, en principe, ne devrait absolument avoir rien de choquant. Alors, évidemment, la question qu'on peut se poser, voilà, est-ce que ça serait pas pire si on pouvait pas voter? Bien sûr que ça serait pire, dit-il, évidemment, mais ça suffit pas pour t'obliger, effectivement, ou pour obliger les citoyens à exercer ce droit-là. Même chose, alors, toujours dans les arguments un peu massus opposés sur le risque, du coup, de basculer dans une dictature, quoi, à force de plus exercer ses droits, est-ce qu'on risque pas ça? Alors, là, peut-être un peu moins convaincant d'après moi. Il a une très très grande confiance, moi je trouve, sur la légitimité électorale. C'est-à-dire que son argument consiste à dire que de toute façon tous les gouvernants ou tous les pouvoirs ont besoin d'une certaine manière, voilà, d'un consentement formel de la part des électeurs, pas des électeurs, mais en tout cas de la population sur laquelle ils gouvernent, et que donc de toute façon aucun gouvernement ne peut se passer de vote, ou en tout cas d'un accord d'une manière ou d'une autre. Là, je trouve que l'argument est un peu rapide. Enfin, on a connu des régimes qui arrivaient à s'en passer, en fait. Hein, mais Son idée, c'est à s'en passer, voilà.
Tandis c'est quoi ? C'est qu'il y a un consentement tacite de la population à une dictature et que ce consentement, il se manifeste pas forcément dans le vote, mais il va se manifester dans l'absence de révolte, éventuellement.
Par exemple. Et en tout cas, c'est des possibilités et qui sont peut-être pas des plus souhaitables. Donc là-dessus, bon, il y a peut-être peut-être un peu rapide. C'est souvent un reproche que moi je peux lui faire. Autant il rappelle des faits très utiles. Là, je vais y venir aussi sur justement la réalité en fait du fonctionnement de la classe politique, notamment en France, qu'il connaît bien puisque il a été assistant parlementaire et puis il a vu ça tourner de près. Donc ça, il rappelle des choses qui sont utiles. En même temps, il a un côté un peu ancien élève de Sciences Po, si vous voulez, par rapport à bon, ce qui doit être, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire un rapport un peu distant à la politique, un peu ludique, on va dire, voyez, c'est-à-dire que on sent qu'il est, voilà, ça gêne pas d'avoir des arguments qui tombent bien et des bonnes chutes.
Parce qu'il a beaucoup joué.
Qu'il a beaucoup joué, et puis parce que surtout, ils sont pas vraiment menacé par qui que ce soit en fait dans ce système là donc effectivement là en l'occurrence effectivement sa confiance là effectivement dans le fait que aucun pays peut basculer comme ça dans une dictature de nos jours, c'est peut-être effectivement des, mais bon, c'est pas l'essentiel ici. Alors un autre point aussi qui est peut-être plus plus lourd, je dirais, dans ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, tous les arguments qu'il va avancer en faveur de l'abstention, et après, il propose un certain nombre de mesures pour changer les institutions et pour éliminer les procédures de vote de manière définitive des formes de gouvernement. Tout ça repose, d'après lui, sur l'idée que la seule vraie démocratie, en fait, et ça, c'est une idée qui est assez répandue, notamment chez les libertaires, que la seule vraie démocratie, c'est finalement la démocratie directe. Et que dès qu'il y a une forme de représentation à un moment donné, on a quelque chose qui coince, c'est-à-dire que les représentants ont tendance à se libérer des obligations et du contrôle des gens qui les ont élus, et que donc ça commence à être la merde, alors avec des questions de degré, selon qu'ils soient corrompus, selon qu'ils soient financés ouvertement par des intérêts privés ou pas. Mais derrière, il y a cette idée-là, c'est que si effectivement on veut parler de démocratie, et si on le souhaite, et il a l'air de faire comme si effectivement tout le monde le souhaitait, ce qui est une autre question, en fait, moi je ne suis pas persuadé que tout le monde soit particulièrement attaché à cette idée-là. Donc
à l'idée de démocratie directe, encore moins, ou plus,
comme tu veux, mais donc derrière ça, il y a toujours cette idée-là, quoi. Donc on en est très loin, d'après lui, hein. Effectivement, on a une classe politique qui est complètement déconnectée de ça et de cette idée, de ces pratiques. D'ailleurs, voilà, bon, il cite, alors il rappelle des citations connues, une citation de Sieyès en 89, au moment de la mise en place de la Première République, où il explique que justement, donc Sieyès, un des futurs consuls, hein, avant que Bonaparte prenne le pouvoir, que les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. Si dictait, là c'est Sieyès qui parle, hein, si dictait des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Discours de Sieyès le 7 septembre 89. Donc là, au moins, disons que l'avantage de ces citations, c'est de rappeler qu'il y a eu effectivement des responsables politiques qui ont été plus clairs que les nôtres aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est sans doute ce que pensent beaucoup de gens, mais c'est plus formulable comme ça, quoi.
Ça me rappelle ta citation de Sieyès, là, elle me fait penser, c'est un texte de Graeber, je ne sais pas si on l'avait vu celui-là ici, mais où justement Graeber dit que les révolutionnaires français et américains, en fait, avaient pris en grippe le Athènes, ce qui voyait comme finalement un régime politique complètement désordonné, et préférait la République romaine. Donc là-dessus, le côté des révolutionnaires qui se présentent littéralement comme des antidémocrates, à l'époque révolutionnaire française ou américaine, c'était très très fréquent.
Le fait de mettre en avant effectivement la démocratie est une idée relativement récente, qui n'est pas dominante effectivement au moment de la Révolution française.
Graeber disait que ça devenait dominant au milieu 19e aux États-Unis environ, mais qu'avant, la démocratie, en fait, c'est un synonyme d'anarchie pour la plupart des auteurs de cette époque.
Alors bon, donc je laisse de côté cette question-là, sachant est-ce qu'effectivement il y a pas de démocratie représentative possible. Alors là, je vais me faire jeter des pierres dans ce studio, mais voilà, disons, allez, on va le formuler comme ça. En théorie, c'est une question intéressante, il me semble. Donc je laisse ça de côté et admettons donc qu'effectivement la seule, la vraie, la pure, soit la démocratie directe. Donc en quoi effectivement on s'en éloigne ? Alors là, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui rappellent et qui sont assez convaincants. En rappelant d'abord, bah, par exemple, si on se pose la question de savoir si en votant, puisque c'est quand même un des arguments qui est souvent avancé, est-ce qu'on choisit réellement la politique qui va être menée ? C'est effectivement bon de rappeler les questions simples, en fait, quoi. Et donc la réponse, elle est pratiquement dans la question. La réponse est non. C'est-à-dire que, ben voilà, l'électeur n'est jamais associé à l'élaboration des programmes électoraux, ou si peu. Bon, évidemment, lorsqu'on est un militant à plein temps de la France insoumise, on peut avoir ce sentiment-là. Je rappelle également que les mandats sont jamais impératifs, effectivement, dans le système qui est le nôtre. Et qu'en fait, eh ben, si on pose les choses à plat, l'électeur n'a jamais aucun moyen d'anticiper la politique qui sera effectivement menée. Quel que soit effectivement l'élu, le parti gagnant ou quoi. Donc en termes de programme, effectivement, le compte n'y est pas, ça c'est clair. Alors en termes de représentants maintenant, puisque bon, en admettant effectivement qu'on élu des représentants, est-ce qu'effectivement voter permet de choisir au moins nos représentants ? Pareil, là si tu poses la question de manière littérale, la réponse est non. Pourquoi ? Parce que tout simplement ce sont les partis qui choisissent en fait les représentants et qui donnent les investitures. Et ben les partis, voilà, pour l'extrême majorité des gens, c'est pas eux, en fait. Et donc, sur cette base-là, effectivement, la question du choix, les programmes ne sont pas choisis, les représentants non plus. Il rajoute une petite couche là-dessus. Alors ça, c'est pareil, c'est plus sur l'actualité plus récente, mais un petit commentaire sur la manière dont souvent ont été présentées les primaires à droite ou à gauche en France, là, dans le cadre des présidentielles, comme une manière justement d'essayer de donner à la population le choix de choisir ses vrais candidats pour être des vrais représentants. Et alors lui est pas du tout favorable à cela. Bon, ça vous étonnera pas. Et ce qu'il rappelle surtout, c'est que contrairement à ce qui existe dans le cas de l'élection présidentielle proprement dite, il n'y a aucune loi encadrant le financement des primaires actuellement. Ce qui fait que là où pour les présidentielles, il ne peut pas y avoir de financement privé dépassant certains plafonds fixés par la loi, qui font que d'après lui, alors ça c'est pareil, on peut le laisser aussi assez son confort, on va dire. D'après lui, la classe politique française ne roule pour personne, au sens strict, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où là, elle roule effectivement ouvertement pour ses financeurs, comme effectivement il y a un financement public de la part des partis en France. Dans le cadre de l'élection présidentielle proprement dite, il n'y a pas de corruption, en tout cas pas de manière comparable à ce qui se passe aux États-Unis, dit-il. Hein, oui. Voilà. Bon, donc là, je
conditionnel. Ça,
voilà. Mais dans le cas des primaires, pas du tout. C'est-à-dire que dans le cas des primaires, effectivement, il n'y a aucune loi, aucun texte de loi qui encadre ça. Donc, on peut rappeler aussi que tous les filtres qui sont mis en place pour justement proposer des vrais représentants qui vont être ensuite des vrais élus représentants dans le cadre des primaires, mais là il y a aussi un système de parrainage de la part d'élus, de la part des partis, donc il y a encore une fois des tas de filtres qui font que l'idée d'une désignation directe des représentants est complètement illusoire. Et en plus, effectivement, ce sont des élus qui sont corruptibles, puisque légalement rien n'empêche qu'ils soient financés d'une manière ou d'une autre par des intérêts privés. Alors après, bon, il y a la question donc sur la question les programmes, donc la question est réglée, les représentants aussi. Alors après, il y a la question de savoir si on peut quand même avoir une approche un peu plus générale et se demander si en votant, par exemple, sur des partis, enfin, des petits partis, on peut pas infléchir éventuellement les politiques menées. Puis ça fait l'objet de beaucoup de discussions quand même entre les gens. Voilà, je vais voter un machin pour adresser un message à bidule et influer sur truc, se faisant que voilà. Oui. Et alors là, lui, c'est son...
On appelle aussi se faire plaisir au premier tour.
Oui, voilà.
Dans certains lieux.
Le vote de conviction, etc. etc. Et là, sa réponse aussi, lui, c'est qu'il est très sceptique là-dessus. Et qu'il pense qu'en fait... voilà. Qu'il pense qu'en fait, le vote pour les petits partis, en fait, ne change strictement rien. Même quand c'est pas des petits partis, et qui sont même des gros partis. Et alors, c'est la question qu'il pose, lui, par exemple, c'est la question de savoir si les gros scores du Front National depuis des années ont, comme on le dit souvent, réellement, par exemple, influencé la politique des Républicains ou de l'UMP, dans un sens plus sécuritaire et anti-immigration. Il répond peut-être un petit peu vite, moi je trouve, là-dessus. D'après lui, non. C'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, les politiques menées par... les politiques réelles, hein, c'est-à-dire que les lois passées, les lois applicables et appliquées, je dirais, voilà. D'après lui, en fait, sont relativement insensibles à la pression qui peut être mise par... par l'extrême droite ou par l'extrême gauche fut un temps. Alors je sais pas, c'est, moi je a priori je suis pas d'accord parce qu'effectivement quand tu fais un bilan des années Sarkozy ou autre, voilà, tu peux quand même te poser la question. Cela dit, c'est vrai que bon, c'est un peu de la politique fiction, c'est difficile à trancher. Est-ce qu'effectivement tu aurais eu une politique différente de la part du RPR ou des Républicains ou de l'UMP, je sais plus trop là. Effectivement sans le Front National, c'est pas sûr en fait. La droite a un programme, les partis de droite ont un programme qui sont suivis de manière relativement voilà. Ça me fait, c'est ce qui irait peut-être dans son sens, c'est une analyse que j'avais vue il y a pas si longtemps où en fait je sais plus qui disait ça, qui disait qu'effectivement sur le, quand on regardait un peu le programme et les décisions politiques qui avaient réellement été prises par la droite française au cours des 50 dernières années. Alors évidemment, il y a des tas de choses à hurler, bien sûr. Mais si vous comparez ça à ce qui a été mis en place par le Parti conservateur britannique, par exemple, on peut parfois avoir l'impression que la droite française est plutôt de centre-gauche, quoi, si vous voulez. Alors évidemment, dit ouais, comme
c'est,
ça...
C'est ce que dirait Serge Dassault, ça.
C'est ce que dirait Serge Dassault, ouais, mais c'est ce que...
Voir qu'on vit dans un pays communiste, comme disait le...
Alors communiste, notre, pas jusque-là, mais...
C'était des patrons, des gars du MEDEF qui avaient été en Chine en disant « Je viens de quitter un pays communiste pour arriver dans un pays capitaliste.
» Bon. C'est-à-dire, effectivement, alors tout ça est à prendre effectivement. C'est un peu voilà la limite de ce bouquin-là, c'est qu'on a des espèces de jugements comme ça, apparemment très 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 rationnels ou très factuels, ouais, et qui en fait voilà, vont vite quoi, on va dire.
Peut-être bientôt faire une pause musicale, ouais. Mais moi je me demande si je ne dirige pas vers un sens un petit peu techno, du genre ça sert à rien d'impliquer le peuple parce que de toute façon les politiques font ce qu'ils veulent, donc autant laisser les politiques se débrouiller tout seuls.
Alors c'est pas son idée.
C'est comme si la politique était finalement se concentrer uniquement sur les élections. Enfin bon, on va voir ça en deuxième partie d'émission.
Voilà. Le suspense est entier,
tout ça. Notre fact-checker est au point et
affûté.
Après un petit morceau, on revient.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses, écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette Floch et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventre qu'en Grèce, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitant de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette Floch et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent des fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouge, bleu ou blanc, il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur fais des ripailles, toi peuple souverain, et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois donc plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette Floch et le Constant sont aussi dégoûtants, car Arnaud ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Ce Floch et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour la deuxième partie de son émission, consacrée à un livre qui fait l'apologie de l'abstention et qui est préfacé par Michel Onfray. Je ne le dirai jamais assez. Et donc, c'est un livre d'Antoine Bueneau qui s'intitule « Nos votes » et qui a été publié par les éditions Autrement. Voilà, et donc Jean-Mathias nous expliquait précédemment pourquoi, enfin comment il répondait à tous les arguments enfin, à partir du livre qui s'oppose à l'abstention pour montrer que très très fréquemment en fait l'abstention n'a pas forcément on peut pas forcément lui opposer les arguments classiques et qu'elle n'a pas forcément le poids qu'on imagine, que le vote n'a pas forcément le poids qu'on imagine.
Voilà, la partie là, le chapitre que je suis en train un petit peu de parcourir avec vous, ça peut être voter ne sert à rien. Voilà. Donc vous voyez mais c'est important la formule, elle est importante parce que c'est pas un anti-vote ou c'est pas un anti-État qu'on a derrière et encore une fois c'est pas un anarchiste Antoine Bueneau, ça faut bien pas de malentendu là-dessus. Il y aura des déceptions, il va y avoir des déçus, voilà. Donc non, ne soyez pas déçus, c'est ça, il pose le problème de manière un peu différente, voilà, sur l'utilité réelle et concrète de la chose. On a déjà vu un certain nombre d'arguments. Il continue après, effectivement, et c'est là-dessus, bon, c'est assez quand même éclairant. Voilà, les élus peuvent-ils agir? La plupart d'entre eux, non, rappelle-t-il. Les élus qui ne nous représentent pas, de toute façon, puisqu'ils sont mis en place par des partis dans lesquels on n'est pas et qui sont, bref, sur des programmes qu'on ne construit pas non plus. Pourquoi? Si vous prenez le cas de la France, voilà, des rappels utiles, les assemblées ne font pas la loi. Même si effectivement on parle d'assemblée législative, c'est-à-dire que la proportion en fait de lois qui sont à l'initiative du gouvernement est de l'ordre de 90% des lois, et pour les 10% qui restent,
c'est quoi, c'est l'Union européenne?
Non, c'est pas l'Union européenne, c'est des propositions de loi techniques, et anecdotiques de la part de députés qui s'enlisent effectivement dans des discussions assez longues, sachant que de toute manière, effectivement, les propositions de loi du gouvernement ont l'arme de destruction massive, à savoir le 49.3, et l'article 44 aussi, il rappelle, ce qui est tout simple, ce qui est l'article définissant les possibilités de vote bloqué, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire voter un texte dans son ensemble pour pouvoir refuser des amendements gênants. Donc voilà, assemblée législative, non. Donc c'est pas les assemblées, ils font pas la loi. Bon, c'est pas elles non plus qui établissent les budgets. Je me rappelle, de fait. Le Parlement, il le rappelle, bon, c'est toujours utile de le rappeler, le Parlement modifie en moyenne moins de 1% des crédits présentés par le gouvernement en loi de finances. Et encore dans ce chiffre, la part de ce qui a été téléguidé par le gouvernement est inquantifiable. Quoi qu'il en soit, les infimes modifications émanant du Parlement ont toute une chance de disparaître en régulation budgétaire, bref. Et dernier point encore sur l'action réelle des assemblées en France notamment, les assemblées contrôlent pas non plus les exécutifs, c'est-à-dire qu'elles peuvent effectivement proposer une motion de censure, mais que sur une motion de censure, en fait, le gouvernement peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc effectivement, si on met les choses,
De Gaulle était vraiment un grand démocrate.
Ah bah écoute, je pense que
c'est ce qu'on peut conclure.
Voilà. Alors est-ce que effectivement, du coup, ces assemblées quelles sont les fonctions réelles des assemblées, législatives ou Sénat? Bon bah il y en a, il dit, faut le reconnaître, voilà, constituer, entretenir et renouveler les réseaux politiques. Mais ce qui est une réalité factuelle, voilà, pour faire carrière. Fonction tribunicienne, il reconnaît, donc effectivement, le débat public a lieu dans les assemblées. Bon, mais c'est une fonction qui est partagée avec les médias, donc c'est pas propre au, voilà. Et fonction réflexive, alors là, c'est pareil, voilà, il évacue ça en quatre phrases, voilà. Donc, ça, c'est autant pour tous les adeptes de la démocratie délibérative et puis des milliers de pages qui ont pu être écrites là-dessus. Donc, fonction réflexive, voilà, quatre lignes dans son livre. Fonction plus spécifique aux assemblées parlementaires, elles produisent de la réflexion, des analyses, des idées, des propositions. Le Parlement finalement est un énorme think tank. Alors c'est typiquement le genre de forme sur lequel on voit un peu les limites aussi de son approche. Après, ça enlève rien au mérite. Hein. Mais les limites, c'est quelqu'un qui a jamais réellement pris le débat démocratique au sérieux, en fait, je pense. Hein. Alors après, il sait des choses, il rappelle des choses utiles, et puis il a une vision un peu dépassionnée, voilà, des institutions qui est utile. Mais bon, il y a ces questions-là. Bon, alors je passe un peu après, donc il examine un par un, voilà, sur les questions des gouvernants. Est-ce que les gouvernements sont élus? Bah non, ils sont pas directement élus. Bah de fait, non, ils sont nommés par le président. Donc c'est pas le gouvernement en tant que tel qui est élu. Confère Emmanuel Macron, par exemple. Un petit couplet sur effectivement le poids de l'administration, quel que soit le gouvernement et quelle que soit la légitimité qui peut tirer de l'élection du président. Tout ça, alors, ça pourrait amener vers l'idée que finalement, tout ça, ça tourne tout seul et que de toute manière, les gouvernements, finalement, sont impuissants et qu'en fait, la politique est ailleurs et que, voilà, il faut s'orienter vers l'engagement social ou l'engagement associatif, etc. Ce qui n'est pas son propos non plus.
Ou l'engagement technocratique?
Alors, bah, technocratique, lui,
non,
si tu
pas.
Veux,
c'est pas, pas. C'est... Genre, c'est des experts qui doivent gouverner parce que, de toute façon, voter ne sert à rien.
Non, mais c'est, non. En fait, si tu veux, lui, il se présente comme démocrate, hein, donc si tu veux, l'engagement démocratique, il a pas besoin, technocratique, il a pas besoin de justification, il existe, point, quoi. Voilà, il y a des gens qui veulent faire carrière là-dedans et qui font carrière là-dedans. La question, c'est effectivement, est-ce qu'on s'en tient là ou pas? De fait, effectivement, c'est la réalité, c'est une bonne partie de la réalité des gouvernements aujourd'hui, mais pas tout, hein, pas tout. Il dit qu'en fait, il y a quand même effectivement, alors, il y a effectivement des limites si tu prends par exemple les collectivités locales. Bon, bah voilà, hein, puissance objective des collectivités locales dont la plupart du budget est cadré par des dépenses obligatoires fixées par l'État. Donc effectivement, les politiques qui sont menées par les communes, les départements ou les régions sont de toute façon marginales. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est voilà, on est plus de 85% des dépenses sont obligatoires quand même, hein, dans ce qui concerne les collectivités territoriales. Donc ça laisse une marge de manœuvre de 15%. Donc effectivement, quand t'es élu des responsables régionaux ou départementaux, t'es élu effectivement des gens qui vont gérer 15% de leur budget. L'État lui-même, alors ça c'est pareil, rappelons, l'État lui-même a une politique cadrée de manière quasi impérative par des directives européennes. Là, pour le coup, t'as quelque chose qui s'apparente à un quasi-mandat impératif. On peut en parler aux Grecs, d'ailleurs. Donc, il y a ça. Et en même temps, ça suffit pas, d'après lui, pour dire que du coup, le politique ne peut rien, qu'il faut faire autre chose. Hein. Si, effectivement, il considère que si les dirigeants, alors qui sont pas élus sur des programmes qu'on n'a pas constitués, pas contrôlés par des assemblées, etc. Si les dirigeants voulaient effectivement changer pour des institutions de manière significative, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire simplement, ils ont pas intérêt à le faire. Voilà. Alors ça c'est pareil, ça paraît banal, mais c'est peut-être pas pour autant faux. Hein. C'est que l'intérêt objectif des élus, il rappelle, c'est de ne pas agir vraiment, en fait. C'est-à-dire que leur intérêt objectif. Ouais. Alors déjà pour des raisons de carrière.
Là, on voit bien qu'il a bossé avec Bérou. Hein.
Voilà.
Parce que Bérou, faut quand même savoir pour ceux qui sont pas dans le sérail, mais c'est un des ministres préférés de l'éducation, des ex-ministres préférés des profs. Parce que c'est un ministre de l'éducation qui n'a rien fait. Ouais. Il n'a fait aucune réforme et vous avez plein d'anciens profs qui l'adorent à cause de ça.
Oui, parce que voilà, donc il a des formules là-dessus, effectivement, sur le pacte électoral. C'est en gros, voilà, laissez-nous nous gaver raisonnablement, effectivement, et on vous promet de pas trop vous emmerder pendant qu'on sera au pouvoir, en gros. Mais ça paraît banal, plat, effectivement, un peu, mais bon. Ça suffit pas à réfuter le.
Oui, c'est pas parce que c'est ennuyeux et plat que c'est faux.
Que c'est faux, voilà. Donc.
C'est pas non plus parce que c'est ennuyeux et plat que c'est vrai, mais bon.
C'est ça, voilà. Mais donc, enfin, voilà. Là-dessus, je veux bien le croire, effectivement, il parle en pro, pour le coup. C'est effectivement l'idée que le meilleur bilan pour un élu, en fait, c'est le bilan le plus stable et le plus creux possible, en fait. Hein. C'est-à-dire, alors après, on peut faire effectivement de la communication médiatique et intervenir, mais là, on n'est pas dans le travail législatif. C'est-à-dire qu'effectivement, un député peut communiquer dans les médias, mais en termes de bilan législatif, surtout, voilà, éviter de se faire des ennemis, de fâcher ou voilà, de mettre un risque excessif sur sa carrière. Donc résumons-nous.
Oui, parce que quand on cherche une majorité aux élections, il ne faut surtout pas être clivant, de fait. Donc,
voilà, bon, c'est comme ça. Donc page 77, voilà, résumons-nous. Si voter, c'est 1, opter pour des gens qu'on n'aurait pas choisis. 2, choisir entre des programmes qu'on n'a pas demandé. 3, cautionner une politique dont on n'a aucune idée. 4, légitimer des autorités non élues. Et 5, pour que, in fine, presque rien ne change. Voyez-vous, une seule bonne raison de voter. Alors c'est posé, voilà, on n'est pas sur le, dans la perspective de destruction de l'État bourgeois, c'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est pas... pas inintéressant. Alors vient ensuite, alors c'est pareil, il y a des c'est à prendre un peu de manière mesurée cette affaire-là, le fameux argument voter pour faire barrage au Front National. Alors là, je m'adresse à tous nos auditeurs qui s'apprêtent à voter Macron pour faire barrage au...
Ils ne s'apprêtent pas à voter Macron.
Au Front National. Alors, c'est là où on voit effectivement le côté un peu, voilà, un peu dilettante aussi, un peu science potard, je dirais, de la démonstration. Mais peut-être pas que. Voilà, peut-être pas que. Alors déjà, premier argument d'après lui, c'est il y a une très bonne raison de ne pas faire barrage au Front National, dans la mesure où le Front National n'est que plus nocif à partir du moment où il n'accède pas aux responsabilités. Voilà. Et qu'à partir du moment où effectivement il accède à des responsabilités, et ben en fait il se plante, voilà, de manière assez assez régulière. Alors là, factuellement, on peut quand même aller regarder d'un peu plus près, parce que ce qu'il dit n'est pas complètement faux. Les premières mairies Front National années 90, Vitrolles et compagnie, ça a été une catastrophe. Mais il y a aussi Bompard réélu triomphalement à Orange depuis près de 20 ans. Donc c'est pas si clair. Cela dit, effectivement, l'accès aux responsabilités, il y a une telle proportion de tocards dans les cadres du Front National, ça s'entend. Et après, alors bon. Prend les choses toujours un peu à la lettre, hein, en regardant finalement les deux piliers quoi du programme Front National, à savoir fermeture des frontières et sortie de l'euro et de l'Union européenne. Et d'après lui, c'est ça qui est structurant et qui donne effectivement la cohérence du programme du Front National en tant que parti extérieur aux responsabilités. Et en fait, c'est d'après lui, c'est juste deux gros mensonges qui sont tout simplement pas faisables. Alors, il résonne un peu à échéance lointaine, hein, parce que entre-temps, il peut y avoir aussi beaucoup de casse. Mais pourquoi le programme anti-immigrationniste est pas faisable? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrôle des frontières ou des visas possible aujourd'hui. D'après lui, ça, il le dit clairement. Il dit en gros, il y a 3 millions de visas qui sont délivrés pour le territoire français par an, en fait, à peu près aujourd'hui. Et sur ces 3 millions, il y en a 2 qui sont en fait des visas touristiques. Voilà. La France étant une des principales destinations touristiques au monde. Après, donc, il redonne un certain nombre de chiffres pour 2015. Donc, il dit bon, ok, admettons. Donc, on peut donc restreindre, admettons que le Front National accède au pouvoir. On peut donc restreindre l'octroi des visas économiques. C'est à peu près de l'ordre de 450 000 sur les 3 millions. Et ceux qui sont accordés au titre du droit d'asile, 560 000 sur les 3 millions. Donc, en gros, on a un tiers. Voilà. Regroupement familial, c'est 60 000. Donc si vous additionnez économique, droit d'asile et regroupement familial, vous êtes même pas à la moitié, en fait. Hein. Donc effectivement, si on fait une réduction drastique de ça, bon, ben soit, mais le problème c'est qu'après, il n'y a rien qui empêche que ces visas-là soient présentés pour des motifs touristiques, en fait. D'un point de vue juridique, bon bah voilà, c'est un problème, c'est un point de vue qui est un peu dépassionné, un peu dépolitisé, et ça parle pas de l'ambiance de racisme d'État pourri qui s'associera à tout ça. Ça parle, voilà, en termes de contraintes législatives réelles, qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui ne l'est pas. En l'occurrence, pour lui, le contrôle des visas, c'est juste une vaste blague. Le contrôle aux frontières, n'en parlons pas. C'est-à-dire qu'en termes d'embauche de douaniers, de déroulé de fil barbelé, etc., etc., c'est juste, c'est juste une blague également.
Ils vont pas construire un mur?
Alors,
c'est à la mode, hein.
C'est la mode. Alors, il faudrait voir. Bon, 3000, il rappelle quand même, hein, 3000 km de frontières terrestres pour la France, 4000 km de littoral. Bon. Effectivement. Et il y a des calculs qui ont été faits aussi sur le coût, à supposer que ces travaux de ce type soient réalisés, le coût que ça représentait en termes de ralentissement de la circulation des marchandises, parce qu'effectivement, rétablissement des douanes, c'est aussi rétablissement des délais, etc. Et donc, c'est estimé pour l'instant à peu près une perte de 2 milliards d'euros par an, à court terme, et 10 milliards à moyen terme, selon France Stratégie, note d'analyse du 3 février 2016. Bon, tout ça, toutes ces raisons... D'après lui, suffisent à prouver que de toute façon, la fermeture des frontières, c'est juste un mensonge. Avant d'être une saloperie idéologique, etc., c'est un mensonge. La sortie de l'euro, c'est la même. Donc, explosion de la dette, etc. Enfin bon, ça, c'est des arguments qui sont effectivement plus connus. Donc, ça se fera pas. Voilà. C'est ça sa conclusion. Donc ça se fera pas. Donc accédant au pouvoir effectivement sur deux mesures phares qui sont celles-là et qui ne feront pas, de toute façon, à supposer qu'il y ait accès au pouvoir, le risque n'est pas si grand d'après lui. Alors là c'est pareil, je pense qu'effectivement il va un petit peu vite, que les ressources de l'état d'urgence, de l'état de siège ou le tout...
Il part quand même du présupposé qu'en gros rien ne bouge globalement.
Globalement oui, ou à la marge.
Le problème, c'est qu'il a, sans doute raison dans 99% des cas, et le 1% catastrophique, oui. Il l'ignore complètement.
Oui, absolument. Ouais.
Donc, et même l'analyse politique, à mon avis, quand même est dangereux. Mais bon.
Je suis d'accord. Hein, je suis d'accord. Mmh. Et même quand c'est pas catastrophique forcément, mmh. parce que tu peux parfaitement imaginer un gouvernement Front National ou affilié qui effectivement se plante ou essaye de faire comme s'il se plantait pas, mais qui se plante sur ses mesures phares, et puis qui t'entretient une guerre civile de basse intensité dans les banlieues des grandes villes. Ça peut durer un certain nombre d'années. Mmh. Alors, ok, le programme ne sera pas appliqué, mais c'est suffisant pour ne pas chercher à éviter chose.
En tout cas, il y a des pauvres racisés qui en prendront plein la gueule pendant des années.
Oui, entre autres. Ouais, ah. Donc,
Que tu vas changer de chapitre. On va peut-être faire une pause musicale et passer un morceau d'anarchiste belge, René Binamé.
Allez.
Voilà, encore un truc contre le droit de vote.
Il l'a dit.
Je l'ai dit. Contre les élections.
Dépend de la conjoncture, mais avec un peu de bonne volonté, ce gouvernement s'en sortira.
La Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie. Donc Jean-Mathias, qui est en train de répondre à un auditeur furieux, j'imagine, va continuer de nous présenter un bouquin d'Antoine Bueno qui s'intitule « Nos votes ». Un manifeste pour l'abstention, publié aux éditions Autrement, avec une préface de Michel Onfray, je ne cesserai jamais de le dire. Je vous rappelle aussi qu'on a fait, pour meubler, je vous rappelle qu'on a fait une petite émission contre Michel Onfray il y a quelques années, qui est disponible sur le site Gurdulu, ainsi que toutes nos autres émissions, que je vous recommande vivement, parce qu'elles sont excellentes, toutes. Et évidemment, en toute modestie. Et voilà, donc Jean-Mathias, t'abordais quoi là? Donc t'abordais les arguments qui étaient du genre faire obstacle au Front National, ce serait la raison d'aller voter.
Ouais, et d'ailleurs,
il montrait qu'en fait, vu de là où il est, effectivement, l'accession du Front National au pouvoir n'est pas un problème pour lui.
Ouais. Ça, c'est ce qui est un petit peu inquiétant quand même quand on pense qu'il y a plein de responsables politiques qui doivent penser exactement la même chose.
Je pense qu'il n'y a pas que des responsables politiques. Oui. C'est qu'effectivement, c'est ce que disait notre fact-checker ici, c'est que pour quelqu'un effectivement de blanc, de diplômé, sans problème de revenus particuliers, enfin je veux dire même sans être effectivement dans les milliardaires de ce pays, en fait globalement effectivement qui que ce soit au pouvoir, les risques sont limités quoi. Mais je pense que bon alors ça quelle proportion de la population ça concerne ça je sais pas, hein, mais c'est pas il est pas tout seul là-dedans hein, et c'est pas simplement classe politique, mais ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de gens effectivement qui peuvent penser aussi la question politique ou leur engagement politique de manière un peu comme un hobby quoi. Hein. Il y a un peu effectivement ce risque-là derrière. Bon après il y a l'autre point là, j'ai une auditrice qui venait d'appeler qui pose la question qui tue. Mais en fait est-ce que vous pensez que la sortie de l'euro serait vraiment une catastrophe Donc je donne mon joker sur cette question-là, c'est comme je viens de lui dire. Bon évidemment ici là c'est pas l'objet central du bouquin hein. C'est plus effectivement une manière de poser le après moi je persiste à dire que c'est une manière de poser le problème qui peut avoir ses vertus, c'est-à-dire effectivement le complètement dépassionné, d'une certaine manière complètement désinvesti à titre personnel, parce qu'effectivement il part du principe qu'il court aucun risque. Alors, ce qui est évidemment pas le cas de tout le monde, mais ça peut aider effectivement à formuler aussi peut-être certaines questions de manière plus claire qu'on pourrait le faire la question de l'évaluation des risques aussi encourue, elle est toujours difficile à évaluer de manière lucide.
C'est sûr que tout le pathos fait autour des élections par certains journalistes est parfois quand même très très fatigant, parce qu'on se dit, mais pff, qu'est-ce que vous essayez de nous faire croire, que c'est réellement important ce qui est en train de se passer tel jour bon.
Alors bon, voilà. Donc après sur le, j'ai peut-être, peut-être encore un ou deux arguments sur les objections classiques. Et puis après, je viendrai sur les propositions qu'il fait à la fin du bouquin là, pour accéder à une vraie démocratie vraie, vraiment directe, etc. Il y a un argument, il y a un petit développement que j'aime bien là sur le un argument souvent opposé aux abstentionnistes, c'est le fait que quand on s'est abstenu, on n'a plus qu'à la fermer en fait, puisque de fait on n'a pas participé à la partie. Et donc il pose la question effectivement, peut-on décemment se plaindre des politiques menées quand on n'a même pas voté? Réponse: ah oui, et même plutôt deux fois qu'une, dit-il. Donc ces fameux arguments, quand on s'est abstenu, on n'a plus rien à dire ensuite. Alors là, c'est pareil, c'est dit de manière dépassionnée, désimpliquée, etc. Je lis le passage parce qu'il est, plutôt éclairant là-dessus. Une belle ânerie, dit-il, hein, quand on s'est abstenu, on n'a plus rien à dire ensuite. Il y a encore une belle ânerie qui en dit long sur la propagande et le conditionnement électoraux. Ils sont si forts, ce conditionnement, qu'ils parviennent à établir un lien magique de subordination entre le droit de vote et les autres droits et libertés. Selon un raisonnement simple, et évidemment simpliste, les abstentionnistes refusent de jouer le jeu démocratique, ils n'ont donc plus qu'à fermer leur gueule. C'est évidemment très stupide, mais l'idée est à ce point répandue qu'il faut malheureusement s'employer à la démonter. Alors premièrement, il n'y a pas de rapport hiérarchique entre les droits. L'exercice des uns n'ouvre pas celui des autres et inversement. Deuxièmement, il n'y a même pas le lien du tout entre les droits. Le non-exercice des uns n'entraîne pas la déchéance des autres. Et troisièmement, nous l'avons déjà démontré, s'abstenir en conscience, c'est bien exercer son droit de vote. Alors, détail après, voilà, tout cela relève du bon sens, mais amusons-nous en raisonnant par l'absurde à emboîter le pas des libres penseurs qui, en beau bouton de panurge lobotomisé, colportent ce truisme. Quand on n'a pas voté, on n'a plus qu'à se la fermer. D'accord. Admettons, m'abstenir me prive visiblement de ma liberté d'expression. Mais cela soulève quelques questions. Premièrement, quel est le champ de l'interdiction? Suis-je condamné à me taire uniquement dans la sphère publique ou l'interdiction vaut-elle aussi pour la sphère privée? L'interdiction vaut-elle pour l'oral et pour l'écrit? Deuxièmement, ne suis-je privé que de ma liberté d'expression? Puis-je encore faire grève ou manifester? Si on est cohérent, non. Troisièmement, toujours, suivant la même logique, qui peut encore s'exprimer? Uniquement ceux qui ont voté pour les perdants d'une élection? Là encore, ce serait cohérent. Hein, ceux-là peuvent effectivement dire aux abstentionnistes, vous n'avez rien fait pour éviter que ces forbans n'accèdent aux responsabilités. Et ils peuvent aussi dire aux citoyens qui ont voté pour les gagnants de l'élection, on vous l'avait bien dit, maintenant vous n'avez plus qu'à vous en mordre les doigts, et vous aussi, à refermer. Car c'est cela le plus problématique, lorsque j'ai voté pour les gagnants d'une élection. Est-ce que je suis moi aussi condamné à me la fermer, même quand je me sens trahi? Ce qui est fort fréquent, puisque nous l'avons vu, le mandat n'est pas impératif et les promesses de campagne sont rarement tenues. Faisons les comptes. La logique du droit à s'exprimer lorsqu'on a correctement voté condamne environ 44% d'abstentionnistes. C'est la moyenne depuis 2010. Et environ 30 à 45% de votants pour l'opposition au silence. Entre 74 et 89% de citoyens sont donc priés de ne pas se manifester entre deux scrutins. C'est là une singulière conception de la démocratie. Il n'est pas nécessaire de gratter longtemps le vernis démocratique du système représentatif pour retrouver sa tentation autoritaire. Voilà, voilà. C'est une page plutôt effectivement de bonne facture là-dessus. Bon, après, sur un argument qui casse pas trois pattes à un canard, mais c'est formulé de manière plutôt convaincante. Alors, peut-être deux mots pour terminer sur la partie programmatique, effectivement, qui propose à la fin du livre. Alors, il examine plusieurs scénarios, en fait. Donc, déjà, un scénario dans lequel on resterait dans le cadre du système représentatif et non, tel qu'il existe, et où on essaierait voilà, d'intégrer des mesures qui pourraient réellement rapporter effectivement de la démocratie directe donc dedans. Alors il y a des espèces de gadgets un petit peu selon moi, donc par exemple il y a une espèce de plateforme déclarative sur internet de non-vote qui permettrait de comptabiliser les abstentions. Oui, parce que c'est un problème. Effectivement, l'abstention, comme le vote blanc, n'est pas comptabilisée en tant que telle, ni effectivement lisible en tant que telle. Donc voilà, penser à des outils de ce type-là. Bon, là, on va pas passer la nuit parce que ça me paraît pas passionnant. Mais bon, pourquoi pas. La question de la dose de proportionnelle, toujours. Mais ça, c'est pas les propositions les plus intéressantes. Après, si on veut passer à une 6ème République, quand je vous disais qu'il n'était pas anarchiste, le camarade Bueno, si on veut passer à une 6ème République, en fait, il y a deux possibilités, hein, d'après lui. D'abord, on pourrait effectivement s'interroger sur le fait de supprimer purement et simplement toutes les assemblées. Voilà. Donc législative, mais aussi législative, Sénat, etc., mais aussi les conseils municipaux, départementaux, etc., etc. Et de réserver des élections, s'il faut encore voter, admettons que c'est le premier scénario, de réserver les élections directement à l'exécutif, hein, donc au gouvernant, en supprimant les assemblées qui servent à rien, on l'a dit, si ce n'est effectivement entretenir des gens qui font carrière. Donc ça fait des économies, tout ça. Donc ça, c'est la première option. L'autre option, d'après lui, c'est de passer au contraire à un c'est pareil, paradoxal, mais effectivement, c'est sa logique, c'est de passer au contraire à un vrai régime d'assemblée, c'est-à-dire effectivement où l'assemblée élit elle le gouvernement et est élue elle par les électeurs. Bon, là, on est encore dans de la mesurette, hein, d'après lui. Si on veut vraiment passer à la démocratie directe, comment on fait ? Alors, on supprime les assemblées, on élit des exécutifs, donc des gouvernants, et en fait, les assemblées élues sont remplacées par, ça aussi c'est une idée qui n'est pas très originale, mais elles sont remplacées par des assemblées de citoyens tirés au sort. Qui discute de quoi ? Alors, qui discute, d'après lui, de mesures donc proposées par le gouvernement sur la base de ce qu'on appelle maintenant les marchés prédictifs, c'est-à-dire ça, c'est une idée qui est pas inintéressante non plus. C'est en fait des techniques pour faire des paris sur l'avenir. Alors ça existe évidemment dans le cas des matchs sportifs, etc. Mais ça existe aussi maintenant de plus en plus, notamment des boîtes anglaises qui sont mises sur ce créneau-là, comme alternative au sondage, et même effectivement à la prospective économique ou politique. Et d'après lui, c'est une manière relativement intéressante, en fait, d'introduire effectivement de la démocratie là-dedans, sachant qu'effectivement les parieurs dans cette affaire-là sont rémunérés en fonction de leurs gains et de la réussite de leur pari. Donc ça permet de faire des prédictions sur la base desquelles des jurés populaires tirés au sort peuvent effectivement légiférer. Si on rajoute à ça une petite dose de mandat impératif, et d'après lui, effectivement, c'est en ce qui concerne les exécutifs, en tout cas, c'est pas forcément plus mal. Et donc, du coup, on a quelque chose qui ressemble pas tellement effectivement à la 5ème République. Alors, comme on arrive vraiment à la fin, je lis juste très rapidement ce qu'il appelle, donc on a à la fin du livre, là, le portrait robot d'une vraie démocratie moderne. En filigrane de tout ce qui vient d'être dit, se dessine un système de démocratie directe à deux étages, nous dit Bueno. Premier étage, toute politique s'appuyant sur des anticipations, Ces dernières pourraient être faites par le peuple via les marchés prédictifs, donc sur la base des paris là, que je viens de présenter. Il reviendrait aux institutions politiques de lancer des marchés prédictifs nécessaires à l'élaboration des politiques publiques, c'est-à-dire de consulter les citoyens sous la forme de marchés prédictifs. Un marché prédictif serait mis en place pour chaque évaluation requise, à combien s'établira la croissance l'année prochaine, comment pourraient évoluer les taux d'intérêt, le cours du baril, de l'euro, la balance commerciale, quel secteur devrait connaître l'essor le plus important, etc. Le peuple apporterait donc son concours en amont de toute politique. Pour obtenir ce concours, il ne serait pas nécessaire de recourir à de la propagande ou de l'éducation civique. Dans le cadre des marchés prédictifs, l'intérêt individuel, plus précisément l'appât du gain, suffit. En effet, les citoyens dont les anticipations se réaliseraient ou seraient proches de l'événement effectif gagneraient leur pari et une somme correspondante qui leur serait allouée par la collectivité. Il n'y a rien de choquant à ce qu'un citoyen gagne de l'argent pour avoir apporté son concours à la puissance publique. C'est même la raison d'être des indemnités électives, rappelle-t-il. Deuxième étage, après... pas terminé. Le système institutionnel qui traduirait ses anticipations en politique publique pourrait être un régime d'assemblée stochocratique, comme on dit parfois, c'est-à-dire fondé sur le principe du tirage au sort. Les avantages du régime d'assemblée ont été examinés plus haut. Quant à ceux du tirage au sort, ils donnent littéralement le vertige. Le tirage au sort supprimerait ipso facto toutes les tares du système actuel, la professionnalisation de la politique, la confiscation du pouvoir par une minorité oligarchique, le parasitisme électoral, la manipulation des masses, les promesses intenables, mais surtout, adieu le conservatisme clientéliste. Un tel mode de gouvernance n'a en effet plus aucune raison d'éviter ni les décisions impopulaires qui s'imposent, ni les décisions défavorables aux minorités influentes. La description détaillée d'un tel régime nécessiterait un essai à elle seule. En attendant, on peut remarquer que, tiens, c'est un régime sans vote. Trois petits points. Voilà. Alors,
on va s'arrêter là-dessus. Là, il est déjà 31. Donc, il est inarrêtable. Donc, lance un petit morceau de musique et puis on se retrouve dans deux semaines.
Tu veux bâtir les cités idéales, détruis d'abord des monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Sans plus attendre, gagnons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté.